Amen. La présence de Jésus est tellement précieuse. C'est ce qu'on a de plus précieux et ça fait tellement du bien de le louer ce matin. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, vous savez, en France, il y a une épreuve qui s'appelle le baccalauréat, parce que j'ai fait mes études en France. Et il y a souvent ce qu'on appelle les thèmes imposés au baccalauréat. Eh bien, il y a Noël et Pâques, les thèmes sont imposés à la prédication. Aujourd'hui, je ne peux pas faire le détour de parler de la mort et de la résurrection de Jésus. Amen. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de vivre toute la semaine, sainte. Souvent le vendredi, certaines églises font aussi un culte le vendredi saint où c'est la mort de Christ. Et aujourd'hui, nous sommes dans la résurrection. Alors, je vais essayer de conjuguer les deux. L'exercice est difficile en peu de temps, mais je pense que c'est tellement important de se rappeler de ces réalités ensemble. Tout d'abord, la résurrection de Christ. Je trouve que c'est tellement bien de pouvoir en parler. Déjà, on a une tellement magnifique décoration, vous ne trouvez pas ? Hein ? La mort et la résurrection de Christ. Voilà, il y a le tombeau et il y a cette vie qui est là. Et c'est vrai qu'on a peut-être vendredi saint, vous voyez, c'est dépouillé, c'est mis à nu, Jésus mis à nu sur la croix, donc il n'y a rien. Et voilà la résurrection dimanche matin. Je crois qu'on a les deux croix qu'il faut. Et puis au milieu, il y a le pasteur qu'on va crucifier ce matin. pour ça, pour qu'il puisse devenir un homme nouveau. Voilà, en tout cas, j'aimerais vraiment dire, premièrement, c'est fondamental de croire en la résurrection. Vous savez, le cœur du christianisme, le but du christianisme et du projet de Dieu, ce n'est pas juste que vous soyez heureux aujourd'hui, c'est la résurrection. C'est vrai qu'on l'oublie des fois, on parle souvent du retour de Jésus, mais le retour de Jésus est lié à la résurrection. C'est-à-dire que tous ceux qui meurent en Christ maintenant attendent la résurrection, ne vont pas nous précéder. Aujourd'hui, ils meurent, ils sont sans corps et ils attendent la résurrection, un corps nouveau. Vous voyez un petit peu ce que c'est la résurrection. C'est pour ça que c'est tellement fondamental. Parce que Jésus est ressuscité, mais il n'est pas ressuscité comme quelqu'un aujourd'hui qui mourrait. Aujourd'hui, si vous mourrez et puis qu'il y a un ministère de guérison incroyable qui vient prier pour vous, que vous reveniez à la vie, eh bien, ça n'a rien à voir avec la résurrection du Christ. C'est juste, vous allez remourir. Et en fait, quand Jésus dit qu'il a vaincu la mort, c'est-à-dire que le corps de Jésus qui est ressuscité il y a 2000 ans est quelque part dans le monde spirituel, aujourd'hui. C'est-à-dire que le corps de Jésus n'a plus connu la mort depuis 2000 ans, vous voyez ? Vous voyez un peu le changement de paradigme ? Parce que le corps est à la fois physique et spirituel. Hein ? On dit que Adam est devenu une âme vivante, mais que Christ est devenu un esprit vivifiant, dit Corinthiens. Donc vous voyez que le corps, la résurrection de Jésus, c'est quelque chose que nous sommes appelés à vivre. Parce que Jésus est le premier-né d'entre les morts, il est ressuscité. Nous-mêmes, un jour, nous ressusciterons. Et ça, c'est une espérance formidable, déjà pour tous ceux qui sont morts en Christ, que nous pourrons revoir. Et je pense à ma maman, que je me réjouis de revoir un jour. Et ce que je trouve formidable, c'est que l'évangile, ce n'est pas quelque chose de désincarné. Dieu est esprit, mais Dieu nous a créé esprit et corps. Et nous recevons un corps nouveau. Et la vie continue sur la terre, sur une terre renouvelée. Et ça, c'est l'espérance du christianisme. Dieu nous a donné un corps et Dieu va nous en redonner un. Et Christ est le prémisse. Christ est l'homme parfait et le prototype pour nous. Ce n'est pas extraordinaire de croire en cela. Alors bien sûr que le monde nous dira, mais on attend de voir, on verra. Mais notre espérance, elle est solide parce que nous avons déjà dans notre esprit, qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et le salut sera complet dans le monde à venir. Et c'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens, la première épître de Corinthiens, chapitre 15, « S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication » Donc l'évangile est vain et votre foi aussi est vaine. Je crois que c'est important de le rappeler ce matin. C'est le point d'espérance le plus immense du christianisme, la résurrection. Et nous ressusciterons avec lui. Jésus a dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et c'est aussi une espérance pour tous ceux qui souffrent dans leur corps, tous ceux qui sont emprisonnés dans leur corps, tous ceux qui peut-être connaissent la maladie. Et c'est aussi une victoire sur le mal et la maladie. Et c'est aussi une espérance pour nous qu'un jour, nous aurons un corps qui ne connaît plus la maladie et la souffrance. Amen. Mais si nous voulons participer à cette résurrection, il nous faut aussi passer par la mort de la croix et nous identifier à deux personnes qui sont passées aussi par cette mort à côté de Christ. C'est les brigands sur la croix. Et je vais vous expliquer en quoi je vous parle de cette identification. Bien sûr qu'on s'identifie au Christ, bien sûr, mais je vais vous expliquer cela ce matin. Et j'aimerais prendre avec vous ce chemin d'abord dans ces deux personnes qui sont mortes aux côtés de Jésus et de comprendre c'est quoi le salut. Parce que le salut est toujours en deux étapes. Il y a la mort et la résurrection de Christ. Il y a la repentance et la croix et la puissance de Dieu qui se manifeste dans nos vies. Et toute notre vie, depuis notre conversion jusqu'à notre mort, sont marquées par ces deux événements. La mort, la puissance de Dieu, le sang de Jésus qui coule et le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Et j'aimerais prendre une scène que nous connaissons tous, c'est cette scène, vous savez, cette montagne, Golgotha. Jésus qui est là, crucifié entre deux brigands, deux criminels qui purgent une peine de mort aux côtés de Jésus. Et vous savez que la mort par crucifixion, c'était le pire des châtiments de l'époque, de l'Empire romain du 1er siècle. Et un auteur qui est reconnu mondialement, un théologien, dira « La crucifixion était calculée pour ménager une mort lente et atrocement douloureuse, un spectacle destiné à dissuader le peuple. Cloué au bois, le supplicié mourait d'asphyxie par le relâchement de ses muscles. Réservé aux crimes capitaux, notamment au délit de sédition, la crucifixion était appliquée aux esclaves et aux étrangers. Les citoyens romains en étaient, en principe, épargnés. » On voit que mourir de cette manière-là, à cette époque-là, c'était le pire, la pire des morts. Même les Romains ne le voulaient pas. Et c'était quand on avait commis les pires crimes. Et Jésus, lui, est identifié à ces deux brigands, puisque Luc va dire... À un moment donné, dans l'évangile de Luc, il a été compté parmi les malfaiteurs, parmi les criminels, parmi les brigands. Il était avec eux dans cette situation. Et c'est une parole, cette parole-là, dans Luc, qui est une citation de l'Ancien Testament dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 53, qui est un livre qui parle d'un homme qui va souffrir pour les autres, qui va être méprisé, rejeté. On appelle ça le serviteur souffrant. Et c'est un magnifique passage qui, aujourd'hui, n'est pas compris par tout le peuple juif, malheureusement, qu'il voit plutôt le peuple d'Israël. Mais on voit que pour nous, chrétiens, c'est une annonce prophétique de la souffrance de Christ, de souffrance de Christ à la croix. Et dans ce passage, le serviteur souffrant, qui est aussi comparé à un agneau qui va à la boucherie, il va être dit à son propos dans ce passage, qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, dans ce chapitre d'Ésaïe 53, au verset 12. Et ici, la traduction du mot malfaiteur en hébreu, c'est transgresseur de la loi. Et pécheur, rebelle, en fait, à la loi de Dieu. Et cette traduction, enfin ce mot en hébreu, a été... traduit de différentes manières dans nos Bibles. Si on lit différentes traductions, ben on peut voir criminel, on peut voir malfaiteur, on peut voir scélérat, certaines versions plus anciennes, et Darby va mettre inique. Mais en fait, ce mot en grec qui a été traduit, il a été traduit par le mot anomos. C'est anomos, c'est la loi, sans loi, sans Torah. Parce que la loi, c'est la Torah. C'est quelqu'un qui agit sans Torah. Il a été compté parmi les sans Torah, a traduit André Chouraki. Les sans Torah, c'est qui? Mais c'est nous, mes amis. Nous, les païens. Nous, les gens sans loi. C'est nous, c'est vous et moi. Et tous ceux qui n'ont pas mis en pratique la loi. Nous n'avons pas peut-être commis les pires crimes de l'humanité. Vous êtes d'accord? On est des bons Suisses, bien, sous toute couture. On ne fait rien de grave, voilà. Mais peut-être que si on pense comme ça de nous-mêmes, on est peut-être quelqu'un de bien. Mais vous savez, c'est toujours le référentiel qu'il faut regarder. Si, par exemple, je vous donne un exemple. Si je prends un couteau de cuisine et que je le nettoie bien, eh bien, vous êtes d'accord qu'il est propre pour nous. Mais si vous le confiez à un chirurgien pour opérer, il sera sale. Parce que le référentiel du chirurgien n'est pas le même que le nôtre. Eh bien, Dieu est saint, est parfaitement saint. Il a horreur le plus petit des péchés. Même juste l'insulte ou la pensée d'énervement, l'accusation, même quand on a entendu dimanche passé avec Philippe de Courroux, juste d'accuser l'autre, tu me fais ça. Déjà, c'est un péché grave devant Dieu, un crime. Parce que Dieu est tellement saint, ne supporte pas, tellement pur, que ça fait une opposition à sa sainteté. C'est quelque chose qui est grave, comme un crime devant lui. Donc vous voyez que nous sommes donc aux yeux de Dieu, comme le dit l'Épître aux Romains, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes ce brigand sur la croix. Aux yeux de Dieu. Nous sommes ces brigands, parce qu'il y en avait deux. Nous sommes destinés à la mort, et vous savez la mort ce que c'est? La mort, c'est la séparation. Quand on a perdu un être cher, c'est une séparation pour toujours, ce qui crée une grande tristesse dans nos vies. C'est la séparation d'avec Dieu. Nous étions ces brigands sur la croix, destinés à la mort, à la séparation. Et j'aimerais prendre avec vous les textes qui parlent de cette scène. Il y aura deux moments dans ce qu'on va partager. Deux moments sur cette croix. Deux temps. Un moment au début de la crucifixion, en début de matinée, à la 9e heure, sauf erreur de mémoire. Et puis un temps plus avancé dans le temps, où vous verrez qu'il y a quelque chose qui va changer, qui va se passer. Alors prenons d'abord le début de la crucifixion où ces deux criminels vont être crucifiés avec Jésus. On va lire dans Matthieu au chapitre 27 et les versets 38 et suivants. Mais avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête, donc contre Jésus. En disant, toi qui as détruit le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Donc vous voyez, ils insultaient Jésus, hein, c'est blasphémé, c'est fort. Les passants. Un autre type de population. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Ils remettent même en question la relation entre le père et le fils, ils sont quand même gonflés. Alors, verset 44, ce qui nous intéresse, les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Et Marc va aussi appuyer cette idée, ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. C'est très intéressant cette scène qui se passe au pied de la croix. Il y a cette foule, il y a ces gens qui passent et il y a un climat général assez délétère. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de frein. Vous savez, c'est comme une foule. Il n'y a rien de plus bête qu'une foule. Il y a tout le monde qui s'y met. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont en bas de la croix qui commencent à insulter Jésus, les passants, mais aussi les principaux sacrificateurs. Bon, il n'est pas dit qu'ils les insultaient. Peut-être qu'ils ont un peu plus de retenue parce que c'est des gens dignes de la Torah. Mais voilà, leur cœur est quand même le même. Ils se moquent de Jésus. Et on voit que dans cette ce joyeux déchaînement du mal contre Jésus, qui en prend finalement plein la figure, au pire moment de sa vie, voilà que les brigands s'y mettent aussi. Alors qu'ils sont dans la même situation que Jésus, ils se mettent aussi à l'insulter. Parce qu'ils sont pris dans ce mouvement qu'est la nature humaine. la bassesse humaine, la lâcheté humaine. Voilà celui qui est frappé, alors on va encore le frapper plus. Vous savez, il n'y a rien de plus terrible que la nature humaine pécheresse. Parce qu'elle est capable de tout. Et si vous voulez avoir un aperçu, il vous faut juste aller sur les réseaux sociaux et voir l'anonymat, dans quel anonymat les gens se parlent. Parce que quand on est anonyme, on peut tout se permettre. Et voyez comme les gens se parlent et ce qui sort de leur bouche, des commentaires, c'est terrible. Et on voit que quand l'être humain laisse libre cours à sa nature pécheresse, il se passe les pires des choses. Et nos deux brigands s'en donnent à cœur joie. Alors qu'ils sont dans un moment de souffrance indicible, ils arrivent encore à insulter et à agresser Jésus. Et notre cœur, sans l'aide du Christ, si on n'avait pas la nouvelle naissance, si nous n'avions pas le Saint-Esprit, vous savez, mes amis, nous serions les mêmes. Nous serions les mêmes. Quand on enlève certains freins dans nos vies, quand on enlève certaines choses dans nos vies, eh ben, on peut être étonné de ce qui sort de notre bouche, de ce qui sort de nos pensées. Et il ne faudrait pas longtemps pour le mettre en pratique. Et on voit que c'est une scène terrible qui se passe au début de cette crucifixion. Mais heureusement, il y a une suite. Il y a une deuxième scène qui est rapportée par l'évangéliste Luc dans son évangile, qui va rapporter une scène bouleversante sur l'un de ces deux brigands. Je vous invite à lire dans l'évangile de Luc au chapitre 23, au verset 39. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, blasphémait contre lui. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Donc il répète ce qui est dit en bas, finalement, de la croix. Donc c'est toujours... On voit qu'il y en a un qui n'a pas changé. Il est toujours dans le même chemin, le même leitmotiv. Il redit toujours la même chose, il n'a pas changé. Mais voici ce qui se passe. Luc nous dit qu'au verset 40, « Mais l'autre fit des reproches à celui-ci et dit, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui as subi la même condamnation ?» On voit qu'il y a un changement qui se passe chez un des brigands, un des criminels. On voit que qu'est-ce qui l'a amené à changer son regard finalement sur Jésus. Il a comme changé de camp. Il prend la défense maintenant de Jésus. Il parle de crainte de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de ce criminel pour qu'il change ? Moi, je crois que Jésus y est pour quelque chose. Amen. Je crois que Jésus y est pour quelque chose. Je crois que même que la présence de Jésus y est pour quelque chose. Je pense que cet homme, en voyant vivre le calvaire, le même calvaire qu'il vit, il voit Jésus vivre ce même calvaire, mais il le voit vivre différemment. Oh, il voit ce Jésus qui reçoit des insultes, peut-être même des crachats, je ne sais. Et il voit ce Jésus pas réagir comme un homme ordinaire. Il voit peut-être même l'attitude de Jésus. Peut-être même qu'il voit son regard d'amour. Et il entend les paroles de Jésus. Et il entend « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alléluia. La présence de Jésus, son attitude, les paroles de Jésus le transforment, le touchent dans son être intérieur. Parce qu'il ne réagit pas comme un homme naturel. Il ne réagit pas comme tout le monde. Il a un regard différent. La présence de Jésus est différente que la présence de n'importe quel être humain sur la terre. La présence de Jésus est transformatrice. Et je voulais un peu illustrer ça avec un petit extrait vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu le film Ben-Hur. Donc c'est un film où on voit que Ben-Hur est envoyé aux galères, donc il doit marcher avec une équipe, et il croise le chemin de Jésus. Et sur ce chemin, il y a un méchant chef de brigade romaine, un centurion, je ne sais pas, qui... lui refuse de boire de l'eau, alors qu'ils ont tous soif. Tout le monde peut boire sauf lui. Et on voit qu'à un moment donné, Jésus donne à boire à cet homme. Et on voit que le centurion romain, qui va se mettre en colère, qui va vouloir intervenir, va être stoppé par l'attitude de Jésus. Alors, je vous invite à juste regarder cet extrait maintenant. C'est en anglais, mais il n'y a pas beaucoup de dialogue, vous verrez. « éteindre les lumières, peut-être ça va mieux.
No water for him. Said no water for him. Feet, all of you. Get them on their feet.
Come now.
Back in line, you dog! On your feet! Get them going! You there! Back to your place! Back to your place! You dogs!
Vous avez l'intensité des regards, comment Jésus regarde, comment le centurion romain regarde Jésus, comment il est stoppé alors qu'il voulait frapper. Sans doute Ben-Hur ou Jésus, et on voit le regard aussi de Ben-Hur, comment il est touché, et on voit tout se passe dans cette intensité du regard, parce que c'est la présence de Dieu, la présence de Jésus qui fait ça. Vous savez, c'est pas nous qui pouvons faire ça, je vous arrête tout de suite, c'est pas nous qui pouvons faire ça, mais Jésus est en nous, amen. Nous avons, par son esprit, il applique la vérité de la parole de Dieu dans nos cœurs. Et Jésus est formé, comme dit à un moment Paul, est formé en nous. Et plus Jésus prendra de la place dans nos vies, et moins nous réagirons avec notre nature du passé, notre vieil homme, plus nous travaillerons avec l'homme nouveau dans nos vies, plus Jésus prendra de la place, plus sa présence sera dans nos vies, plus le monde sera touché. Amen. J'avais quelqu'un qui témoignait dernièrement qui avait une discussion avec quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu. Il disait, mais moi, je ne crois rien après la mort. Et plus elle discutait avec cette personne, plus la discussion avançait, plus à un moment donné, ça se fissurait spirituellement dans son esprit. Et vers la fin, il admettait peut-être qu'il y avait quelque chose après la mort. Vous voyez, il faut qu'on mette les gens en contact avec Jésus, avec sa présence. Ce n'est pas avec nous, parce que si c'est nous, on sait ce que la nature humaine peut faire. Mais le maître Jésus, sa présence en nous, peut faire la différence. Et vous savez, on souffre aussi comme les gens du monde. On est dans la même difficulté que eux. On est comme ces brigands sur la croix et on souffre. Et même Jésus souffre sur la croix. Et Jésus est avec nous dans nos difficultés, dans nos saletés, dans notre vie qui est dure, qui n'est pas facile, comme les gens de ce monde. Mais ce qui va faire la différence, c'est comment on aborde les choses. Est-ce qu'on l'aborde avec Jésus, comme Jésus le ferait ou est-ce qu'on réagit comme le vieil homme le ferait? Parce qu'on a aussi des disputes, on a aussi des conflits dans nos vies. C'est dur dans toutes les situations de nos vies. Mais si Christ est en nous, l'espérance de la gloire, si nous agissons différemment, si comme le Christ, nous nous plaçons sur le terrain du Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, alors l'attitude autour de nous va changer. Vous savez, on attend tellement que les autres changent, mais on oublie tellement que nous voulons changer d'abord. Et c'est cela qui a changé le cœur de ce brigand, c'est la présence de Jésus, son attitude, ses paroles, ça a duré longtemps peut-être. Et on voit que c'est vers la fin qu'il y a eu tout un processus, ça a pris du temps pour que la présence de Jésus transforme son cœur, transforme sa mentalité, sa pensée. Et voilà qu'il dit maintenant, il prend la défense de Jésus, il dit « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ?» Et on voit qu'il ne se cherche plus des excuses en rejetant peut-être la faute sur les autres ou sur les circonstances malheureuses qui l'ont amené là. Bien au contraire, il y a une vraie confession. On voit qu'il va dire, juste après, il va dire à l'autre brigand, « Mais pour nous, c'est justice, c'est juste qui nous arrive. Nous sommes des criminels. Nous avons mérité les crimes que nous avons faits. » Mais celui-là n'a rien fait de mal. Il est là, sur cette croix, ce brigand, il endure cette terrible condamnation. Il réalise que c'est les conséquences logiques de ses mauvais choix, de ses actes répréhensibles. Il ne plaide plus en disant, ben voilà, c'est de la faute à la société, c'est de la faute d'où je viens. Il n'incrimine plus. Il reconnaît. C'est un mouvement de repentance qui se passe là dans son cœur. Et il reconnaît comme l'apôtre Paul qui dira, le salaire du péché, c'est la mort. Il reconnaît, c'est une juste mort vis-à-vis de ce qu'il a fait. C'est une vraie confession qu'il nous fait là, un vrai acte de repentance. Vous savez, la repentance, c'est à réaliser que le problème, ce n'est pas les autres, mais c'est moi. Vous savez, c'est tout le contraire du jardin d'Éden. Ce n'est pas moi, Seigneur, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. La femme a dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Le serpent a dit, c'est pas moi, et il n'y a plus personne. Et il a pris en premier. Et aujourd'hui, souvent, on veut changer les autres sans changer soi-même. Et le diviseur, il agit. Il agit dans les familles. Il agit dans les couples, il agit dans les enfants, avec leurs parents. C'est un lieu, la famille, où il attaque, vraiment. Où il attaque dans nos relations, dans les choses vraiment qui travaillent notre cœur. C'est là qu'il attaque. Et c'est là qu'il veut créer la division. C'est là qu'il veut créer « j'ai droit à ça ». C'est là qu'il veut nous pousser dans quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et Jésus nous montre un autre chemin. Il montre que c'est notre attitude, notre cœur qui doit changer. Afin qu'on devienne un homme et une femme nouvelle. Comme Jésus était cet homme nouveau. Comme Jésus qui apporte une attitude nouvelle dans sa façon de vivre, sa façon de parler. Il parle même d'un autre royaume. Il parle d'un autre royaume. Ce brigand va reconnaître un roi cloué sur cette croix. Vous savez, on peut être tenté dans nos vies de penser que c'est seulement à notre conversion que ça s'est passé, ces choses-là. Qu'on a réalisé qu'on était pécheurs et qu'on a reçu le Saint-Esprit et puis qu'on a découvert un nouveau chemin. Mais vous savez, on se repent tous les jours et on se convertit tous les jours. Il y a deux brigands sur cette croix. Les deux ont été en contact avec le même Jésus. La même présence de Dieu, pourtant un seul a choisi de prendre ce chemin. Vous savez, à un moment donné, on peut être en contact avec la présence de Dieu toute notre vie et ne pas faire ce choix. Et à un moment donné, c'est le moment du choix. On doit choisir si on accepte ce changement, cette présence de Dieu ou pas. On peut laisser Jésus nous transformer ou pas. Parce que la balle est dans notre camp. Il y a toujours ce choix dans notre vie. Même après 30 ans de vie chrétienne, Pâques, c'est tous les jours. Vous savez, on dit Saint-Valentin, c'est hypocrite parce qu'on fait ça à la Saint-Valentin. Saint-Valentin, c'est tous les jours, si on aime sa femme, etc. Mais j'ai envie de vous dire, Pâques, c'est tous les jours. Ce n'est pas juste la fête des chrétiens avec 4 jours de jours chômés. C'est tous les jours qu'on meurt et qu'on ressuscite avec Christ. C'est tous les jours qu'on doit faire ce choix. C'est tous les jours que je dois laisser la présence de Dieu me transformer. Ce n'est pas parce que je vais à l'église que je vais être transformé par la présence de Jésus. C'est vraiment en le laissant me montrer dans ma vie ce qui a besoin d'être transformé et de le faire et de le laisser me transformer. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est mieux que les gens de ce monde. On a juste Jésus avec nous qui peut nous aider par son esprit. Et Jésus est avec nous dans notre saleté aussi. Il est sur cette croix aussi avec nous, dans cette souffrance peut-être qu'on vit, dans cette dégoulinant de sang, recevant des insultes. Il est avec nous dans ce moment, dans ce lieu de saleté de notre vie. Est-ce que tu vas accepter que Jésus te change ou tu vas refuser ? Et dans certains domaines de nos vies, oui, Jésus est là, Jésus a agi, mais dans d'autres, non. Et on lui dit stop, non. Là, oui, mais pas là. Pas cette pièce. Ta présence partout, mais pas dans ce domaine-là, dans cette pièce de ma maison. Alors, ce choix, ce brigand, on ne sait pas s'il était à la droite ou à la gauche de Jésus, nul ne le sait, mais ce brigand, ce criminel, il a fait ce choix. Il a choisi de prendre ce chemin. Et on le voit pas seulement dans le fait de reconnaître, mais dans le fait de mettre sa foi en Jésus. C'est un double mouvement, la repentance et la foi, ça va ensemble. On voit que, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire à Jésus, maintenant, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi. C'est une confession de foi. Le brigand a reconnu, bien sûr, qu'il était pécheur et que Jésus était juste. Ça, c'est la repentance. Mais il met maintenant sa confiance en Jésus. Il voit en lui un roi. Non, mais imaginez, pas juste parce que c'était écrit au-dessus de la croix, roi des Juifs, mais il voit spirituellement un règne nouveau. Le royaume de Dieu s'est approché de lui. C'est un royaume qui est différent de ce qu'il a vu du royaume de la violence des Romains, qu'ils ont imposé par la violence. Et c'est tellement le royaume de ce monde, et on le voit à la télé, c'est le moment des grands pouvoirs qui exercent leur force et on impose par la force. Ça, c'est le royaume de ce monde. La violence, la barbarie, la menace, l'intimidation, la peur, la crainte. Ça, c'est le royaume de ce monde. Et on voit qu'il voit un nouveau roi sur cette croix. Il voit ce nouveau royaume, ce royaume différent, un royaume d'amour, un royaume de puissance aussi, on le verra, mais c'est un royaume différent. C'est un chemin différent. Et ils veulent en faire partie. Quelle confession extraordinaire. Comment voit-il cela ? Il le voit par les yeux de la foi. Il met sa foi en Jésus. La repentance et la foi ensemble produisent la puissance de Dieu. À l'instant même, qu'est-ce que Jésus lui répond ? Il n'y a pas une fraction de seconde. Il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il est sauvé. Il n'a rien fait. Il n'est pas descendu de sa croix pour régler ses problèmes. Il n'avait pas le temps d'ailleurs. Il n'a pas pu descendre de sa croix pour faire des œuvres bonnes. Il a juste cru. Il est juste venu avec sa petitesse, en reconnaissant son péché, en reconnaissant qui était Jésus et en ayant foi en lui, en mettant sa foi en lui, en reconnaissant que lui, Jésus est juste, il ne mérite pas ce châtiment, mais moi je le mérite et je mets ma foi dans la justice de Jésus. Et c'est ça qui transforme. Quand je mets ma foi en action, trop de chrétiens vivent dans la présence de Jésus mais ne mettent pas leur foi en action. Et c'est ça qui produit la puissance de Dieu dans nos vies. Alors c'est un sacrilège pour les pharisiens, pour les hommes de loi qui sont là en bas de la croix à se moquer de lui, mais il n'est même pas circoncis ce brigand. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Peut-être qu'ils ont dit bien des choses. Ça a dû être terrible pour eux de se dire, mais comment ça se fait qu'il reçoit le salut, le paradis? Eux ne croient pas en lui, ces pharisiens, ces hommes de loi, ces passants, ne croient pas en Jésus, ne voient pas en lui le roi des rois. Mais ce brigand voit, lui, ce chemin nouveau. Lui, il y croit. Le brigand repentant n'avait rien d'autre à offrir que lui-même. Et vous savez, c'est la seule chose qu'on a à offrir à Dieu. Nous-mêmes, notre cœur. Le brigand repentant reconnaît sa petitesse, reconnaît son péché et reconnaît la grandeur et la justice et la bienveillance de celui qui est là, pendu au bois comme lui. Il ne pouvait que croire. Et c'est suffisant. Parce que c'est Jésus qui a tout porté pour nous. Un encouragement pour nous qui prions aussi pour le salut de nos proches. Qui prions pour la conversion, le changement de nos proches. Il y a toujours un espoir avec Jésus. Parce que le brigand repentant nous enseigne que jusqu'au dernier moment, Jésus peut intervenir dans la vie de quelqu'un. Amen. Jusqu'au dernier moment, il n'est jamais trop tard. Je termine. En ce temps de Pâques, où nos yeux se tournent vers Golgotha, qui a scellé le sacrifice suprême, il n'y en a pas d'autre, une fois pour toutes, tout est là. Le tout est accompli est là. Jésus n'a pas prononcé tout est accompli à la résurrection, il l'a prononcé à sa mort, parce que Dieu a condamné le péché une fois pour toutes dans un corps sans péché. Dans ce tout est accompli, ce sacrifice suprême, le récit de Luc sur les brigands ne nous laisse pas indifférents. Deux individus qui auraient pu passer inaperçus représentent à eux deux le destin de toute l'humanité. Deux individus, deux destins, deux façons de réagir à la présence de Dieu dans leur vie. Christ est là, au centre, c'est-à-dire la personne de Yeshua. Yeshua, en hébreu, ça veut dire Dieu sauve. Sauveur. Christ, le salut est au milieu de ces deux brigands. Il n'y a pas de troisième brigand. Il n'y a pas d'autre scénario. Il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a que deux chemins. Et j'aimerais vous lire, pour terminer, ces versets qui résument finalement dans l'Épître aux Romains cette pensée tellement riche et tellement profonde qui est le cœur de l'Évangile, le cœur du christianisme. C'est Romains 3, versets 23 à 25. J'aimerais qu'on puisse le prendre comme une prière. Et ce matin, si il y a des choses que le Seigneur vous montre, vous partage, vous révèle par sa présence, je vous invite à faire un pas avec lui, à dire, mais oui, Jésus, aide-moi dans ce domaine. Aide-moi là, j'y arrive pas. Et pas juste aujourd'hui prendre cette décision, mais dans les prochains jours, priez pour ça, demandez à un frère. Laissez le Saint-Esprit vous parler ce matin. Il a des choses à vous dire, il a des choses à nous dire à chacun. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu, encore aujourd'hui. Prenons-le comme une prière, pour terminer. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Victime expiatoire, ça veut dire victime offerte en sacrifice pour satisfaire les exigences de la justice divine. Je répète, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit « Cela lui fut compté ». C'est aussi à cause de nous. À qui cela sera compté ? Nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus, notre Seigneur. Livré pour nos offenses, nos péchés, et ressuscité pour notre justification. Amen.